RTL Info, le journal Stéphanie Wenker, bonsoir.
Bonsoir, 17 ans et 14 ans de prison pour tentative d'assassinat. C'est le verdict du tribunal criminel de Neuchâtel dans l'affaire de la femme brûlée vive par deux hommes à Areuse en octobre 2022. Le commanditaire du crime a déjà annoncé vouloir faire appel. Un bénéfice qui fait l'unanimité. Aucun député du Grand Conseil neuchâtelois n'a refusé les comptes 2024 de l'État, qui affichent un résultat positif de plus de 56 millions de francs. Mais gauche et droite ont un avis divergent sur l'utilisation que devrait faire le Conseil d'État de cet argent. Manon et Loan Richard au championnat d'Europe junior de natation. Les compétitions débutent le 1er juillet en Slovaquie. Les deux sœurs du Redfish se retrouvent pour la première fois ensemble dans un rendez-vous de cette importance. Beau et très chaud, les températures estivales sont de sortie encore demain dans la région. Un crime qualifié d'odieux est puni de 17 et 14 ans de prison. En octobre 2022, une femme était agressée par deux hommes devant chez elle à Areuse et brûlée à l'essence. Aujourd'hui, le tribunal criminel de Neuchâtel a condamné le commanditaire à la peine la plus lourde, ainsi que l'un des deux exécutants, tous deux pour tentative d'assassinat. Alors face à ce féminicide, la justice a-t-elle voulu en faire un exemple? Les précisions de Vincent Costet.
Les avis sont partagés. Le fait est que le verdict, 18 ans de prison dont un an pour une autre affaire de nature financière, est un peu plus sévère que la peine requise par le ministère public. Le président du tribunal, Bastien Sandeau, a parlé d'une culpabilité écrasante et d'un crime proche des plus graves punis par le système judiciaire suisse. Le procédé est jugé odieux, l'effroi absolu pour la victime et les douleurs infligées abominables. Cette mère de famille jugée totalement innocente, probablement sauvée par ses jeunes enfants qui ont appelé les secours, brûlée sur 25% du corps et qui gardera des séquelles à vie, aura eu comme seul tort bien involontaire d'être l'objet d'une possessivité décrite comme maladive. Elle a eu le courage de témoigner lors du procès. J'ai demandé à son avocat, Alexandre Zenrouvinen, si ce verdict était une victoire.
Non, c'est jamais une victoire quand quelqu'un est mis sous les verrous. Par contre, c'est positif parce que la justice a donné un signal clair sur ce type d'acte, ce type de violence faite aux femmes. Et c'est un signal qui est le bienvenu dans un monde qui parfois perd la tête.
Votre cliente, est-ce que ce verdict va lui permettre d'avancer?
Oui, indéniablement. Sa souffrance a été reconnue. L'agression a été reconnue comme étant une tentative d'assassinat. Et bien sûr, ça va l'aider à poursuivre.
Un signal clair par rapport au féminicide, dit l'avocat de la plaignante. Le tribunal a-t-il donc voulu faire un exemple? Ce n'est pas le sentiment de l'avocate du principal condamné, Valérie Schweingruber-Duprat.
J'ai trouvé que cette lecture de jugement était très posée, très cohérente. Je n'ai pas ressenti la volonté du tribunal de lancer un message pour de futurs potentiels féminicides. Mais peut-être qu'en réalité, c'était quand même sa volonté. Moi, ce n'est pas mon ressenti personnel.
Mais vous allez faire appel?
Oui. J'ai la mission de faire appel, c'est mon devoir, je défends les intérêts de mon client.
L'autre condamné du jour, un des deux exécutants, avait certes besoin de l'argent du commanditaire pour se payer ses doses de drogue, mais il n'était pas sous l'emprise du principal accusé, estime la justice. L'exécutant est pleinement responsable de ses actes, mais lui a exprimé des regrets jugés sincères et au moment de fixer la peine, le tribunal dit avoir tenu à marquer cette différence, notamment entre les deux prévenus.
Les hommes condamnés ont également écopé d'une expulsion de 10 ans du territoire suisse. La victime percevra une indemnité pour tort moral de 70 000 francs. Les deux enfants recevront chacun 20 000 francs. Un résultat financier historique qui réjouit le Grand Conseil. Les députés neuchâtelois ont accepté à l'unanimité aujourd'hui les comptes 2024 de l'État qui affichent un bénéfice de 56,4 millions de francs. C'est beaucoup mieux que le budget qui prévoyait un profit de 9,5 millions. Ce résultat extraordinaire s'explique principalement par une explosion des recettes fiscales. Le Conseil d'État en a utilisé une partie pour remplir différents fonds de réserve. La gauche de l'hémicycle estime que le canton a désormais les moyens de mener une politique d'investissement plus ambitieuse, le député socialiste Hugo Clemens.
On a des recettes extraordinaires, 530 millions si on additionne toutes les réserves. Je pense effectivement que c'est un manque de vision, un manque d'ambition. Et j'espère vraiment qu'avec la nouvelle majorité qu'on a aujourd'hui au Conseil d'État, on pourra avancer sur ces questions sociales et environnementales.
Est-ce que les réserves, il faut les remplir? Elles servent aussi en période de crise. La conjoncture ne s'annonce pas forcément idéale pour les années à venir. ça pourrait quand même servir pour le futur.
Absolument. On ne dit pas qu'il faut vider toutes les caisses du jour au lendemain, mais là, elles ont atteint leur maximum. On dit simplement qu'il y a des arbitrages à faire. On ne peut pas simplement, à chaque exercice budgétaire, dire on réserve, on accumule, sans jamais voir finalement cette perspective qu'on nous annonce comme catastrophiste. On est au Parti Socialiste pour un équilibre entre effectivement maintenir ce qu'il faut dans les caisses de l'État pour les années qui sont plus compliquées, mais on est aussi pour que les arbitrages soient faits, qu'on puisse tout de même subvenir, et notamment aux personnes les plus faibles de la population.
La droite se montre plus prudente en raison de la conjoncture économique à venir qui montre des signes d'essoufflement. Elle estime qu'il faut garder ses réserves pour ces jours moins bons, d'autant plus que des mesures sont déjà prises pour aider les plus faibles, selon Francis Créhenbuhl, député libéral radical.
On a déjà fait un certain nombre de choses, notamment il y a deux initiatives qui concernent les assurances maladie, l'une du Parti Socialiste, l'autre du PLR. Ces deux souhaitent alléger la charge de l'assurance maladie pour l'ensemble de la population. C'est un élément. Sinon, effectivement, on pourrait imaginer un accès facilité, je dis bien facilité et pas obligatoire, aux prestations complémentaires. C'est quelque chose sur quoi on peut travailler.
Dans un autre registre, le Conseil d'État va se battre pour une meilleure répartition des requérants d'asile en Suisse. Il a répondu cet après-midi à une interpellation urgente du groupe UDC sur la situation au centre fédéral des Cernay qui accueille des requérants récalcitrants. La commune des Verrières a dénoncé fin mai la convention qui la lie au canton et à la Confédération. Le Conseil d'État ne veut pas remettre en question son rôle actif dans le domaine de l'accueil, mais pas à n'importe quel prix. Florence Natter, conseillère d'État en charge du dossier.
Le canton ne se battra pas pour maintenir à tout prix ce centre spécifique aux Verrières, au vu de l'expérience menée jusqu'ici.
Vous admettez que l'expérience n'est pas concluante?
Oui, probablement que l'idée au départ était sans doute bien pensée. Après, c'est parfois dans les faits qu'on peut mesurer si c'était juste. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un centre spécifique dédié à des requérants récalcitrants, pour prendre le terme retenu. Et aujourd'hui, le centre, il faut potentiellement qu'il y ait une toute petite occupation, un peu moins de 10 personnes, pour que ça se passe le mieux possible avec la population locale. Et encore, ce n'est pas une garantie absolue comme la commune l'a connue ce printemps.
Florence Natter précise qu'elle ne veut pas non plus que les Cernay deviennent une antenne du centre fédéral de Baudry. Ces dossiers au Grand Conseil neuchâtelois ont été réalisés par Sarah Massy et Jean-Paul Pitchy. Reconstruction, surélévation, réaffectation. Pour faire face à la pénurie de logements, les villes densifient le bâti. Mais ces travaux conduisent souvent à l'éviction des anciens locataires. Une étude publiée aujourd'hui par l'Office fédéral du logement quantifie ce phénomène. Elle s'intéresse au nombre de locataires forcés de déménager entre 2015 et 2020 dans les agglomérations de villes comme Genève, Lausanne, Bâle, Berne et Zurich. Le taux d'éviction atteint 1% de la population résidente à Zurich, mais seulement 0,2% à Lausanne et 0,08% à Genève. Les précisions de Jude Schindelholz, collaborateur scientifique à l'Office fédéral du logement.
Alors l'étude n'a pas analysé les causes, elle a analysé le phénomène simplement. Mais c'est vrai qu'on peut constater quand même que dans les cantons de Vaud et dans les cantons de Genève, il y a des législations plus strictes quant à la préservation du parc immobilier, qui fixent par exemple des limites à l'augmentation des loyers après rénovation, et ce genre de règles peut certainement avoir un effet sur les phénomènes qu'on a étudiés.
Est-ce que le fait que, par exemple, à Genève, il y a plus d'élévation d'immeubles que de reconstruction, ça peut aussi influer sur le fait que les personnes ne sont pas forcément évincées de leur appartement ?
Certainement. C'est vrai que dès le moment où on détruit un immeuble, c'est clair que les locataires ils vont devoir partir. Et dès le moment où à Genève, par exemple, mais aussi à Lausanne, on a moins de démolition d'immeubles que dans les agglomérations suisses alémaniques, ça favorise le fait que des locataires puissent rester sur place.
Des propos recueillis par Marie Villumier. L'étude montre que les personnes à bas revenus sont les plus touchées par ce phénomène d'éviction. À l'étranger, Donald Trump a assuré cet après-midi que la trêve était désormais en vigueur en Israël et en Iran. Il avait accusé un peu plus tôt les deux pays et particulièrement son allié israélien de l'avoir violée. L'autorité palestinienne a pour sa part salué aujourd'hui l'annonce de la fin des hostilités entre Israël et l'Iran. Elle a exigé, pour la stabilité régionale, un cessez-le-feu incluant la bande de Gaza, où Israël est en guerre contre le Hamas palestinien depuis plus de 20 mois.
Et à l'écoute d'RTN, il est 18h10.
RTN Sport.
Manon et Loan Richard, main dans la main au championnat d'Europe junior de natation. Les deux sœurs du Redfish participeront pour la première fois ensemble à la même compétition internationale. Elles seront en lice dès le 1er juillet en Slovaquie. Pour l'aînée Manon Richard, c'est la quatrième participation à un rendez-vous de cette importance. Elle figure même parmi les reines de la délégation helvétique puisqu'elle sera engagée dans 9 courses, 4 individuelles et 5 relais. Ce qui paraît beaucoup, comme le confirme Manon Richard.
J'ai déjà fait ça l'année passée, donc je vais y arriver. Mais ça fait pas mal, surtout comparé aux autres qui nagent peut-être 2, 3, 4 fois. C'est vrai que 9 courses, ça fait vite beaucoup, sachant qu'il peut y avoir aussi des demi-finales, des finales l'après-midi. Ça peut faire vite un gros programme.
Faire partie de cette équipe de Suisse élite, rejoindre les grands noms de cette équipe de Suisse, parce qu'il y en a des très grands, ça joue à quelques centièmes.
Oui, exactement. Au 100 mètres crawl à 9 centièmes, au 50 dos à 6 centièmes. C'est une question de détail, c'est une question de temps de réaction, une question de touche. C'est rien, hein, honnêtement, mais ça reste beaucoup quand même.
En Slovaquie, Manon Richard se fixe comme objectif une qualification pour les demi-finales, voire même les finales, tout en gagnant les quelques centièmes qui lui permettront d'intégrer les cadres nationaux de Swiss Swimming. L'étudiante de marin s'entraîne d'ailleurs en moyenne une vingtaine d'heures par semaine. De 2 ans sa cadette, sa sœur Loan Richard, 15 ans, se soumet à un régime à peine moins sévère.
Moi, je m'entraîne pour le moment entre 14 et 18 heures par semaine. Je vais aussi essayer d'augmenter un entraînement de plus dans l'eau et hors de l'eau. J'ai aussi dû faire des sacrifices comme ma sœur, pas aller au voyage de fin d'année avec ma classe pour aller aux Euros, du coup.
Lorsqu'on parle de nombre d'heures d'entraînement aussi, on est souvent très tôt dans la piscine. Ça, on l'oublie, hein.
Oui, c'est vrai, on est très tôt dans la piscine, à 6 heures on plonge et c'est compliqué les matins de se dire à 6 heures dans l'eau. Et quand il y a l'eau, elle est à 20, elle est 25 et c'est un peu froid, on est la bombe. Allez, c'est parti!
Pour ses premiers championnats d'Europe junior, Loan Richard sera aligné dans 3 courses individuelles, 400 mètres 4 nages, 100 et 200 mètres papillon. Il n'est pas exclu qu'elle participe à l'un ou l'autre relais. Et c'est une déception pour Inès Berger. La jeune athlète de Cormondrèche ne participera pas aux championnats du monde de course d'orientation qui se tiendront du 7 au 12 juillet à Kuopio, en Finlande. Elle ne figure pas sur la liste des sélectionnés diffusée aujourd'hui par Swiss Orienteering. Je vous retrouve à 18h30. Belle soirée.